Galad évoluait dans un cauchemar. L'ultime bataille, il le savait depuis toujours, pouvait impliquer la fin du monde. Mais là, on y était vraiment. Il le sentait dans sa chair. Les tissages des deux camps se percutaient, faisant trembler le plateau de Polov. À force d'explosion, Galad était presque sourd, et ses yeux brûlaient d'avoir dû voir tant d'éclairs. Alors que la terre se soulevait devant lui, il se jeta au sol, comme s'il avait l'intention de s'y enfuir. Son commando, 12 hommes en cape blanche maculée d'immondices, se jeta à couvert en même temps que lui. Les forces de la Tour Blanche encaissaient de formidables attaques. Mais les Chariens n'étaient pas pour autant à la fête. Un tel déferlement de pouvoir était inimaginable. Sur le versant ouest du plateau, l'essentiel des fantassins de la tour et une grande partie des troupes chariennes s'étripaient furieusement. À la lisière du front, Galad tentait de repérer des aïades isolées ou en petits groupes. En de nombreux endroits, le front s'était fragmenté en une multitude d'escarmouches. Rien d'étonnant. Avec un tel déchaînement de pouvoir, impossible de maintenir la moindre formation cohérente. Des soldats couraient en tous sens en quête de trous où se cacher. D'autres protégeaient des groupes d'aïades qui carbonisaient et désintégraient des dizaines d'attaquants. C'étaient eux les proies de Galad. Levant son épée, il désigna trois chariennes qui multipliaient les tissages mortels au sommet du plateau. Avec ses hommes, Galad n'était encore qu'à mi-chemin du versant. Trois aïades. Ce ne serait pas facile, sûrement. Les furies venaient de porter leur attention sur une petite unité d'hommes qui arborait la flamme de Tarvalon. En une fraction de seconde, des éclairs frappèrent ces malheureux. Galad leva quatre doigts. Plan numéro 4. Sortant de son refuge, il fonça vers les trois chariennes. Ses hommes comptèrent jusqu'à 5, puis ils le suivirent. Les aïades virent leur agresseur comme on pouvait le prévoir. Une des femmes lui lança une boule de feu. Le projectile fit mouche et il sentit sa chaleur, mais tout se détissa en une fraction de seconde. Les poils roussis, Galad s'avisa qu'il était indemne. De surprise, la charienne écarquilla les yeux. Cette réaction, le jeune seigneur général la connaissait bien, celle d'un soldat dont l'épée se brise au milieu d'une bataille, ou de quelqu'un qui voit quelque chose qui ne devrait pas exister. Que faire quand le pouvoir de l'unique échouait? Comment accepter l'impuissance de ce qui vous plaçait tellement au-dessus des vulgaires mortels? La meilleure solution, c'était de mourir. Du coup, alors qu'une de ses compagnes tentait de l'emprisonner avec des flux d'air, Galad décapita la première charienne. Sur sa peau, le médaillon devint froid, et il sentit les flux qui tentaient de l'entraver. « Mauvaise pioche » pensa-t-il, en enfonçant sa lame dans le torse de la deuxième femme. Plus intelligente, la troisième jeta une grosse pierre. Pas une seconde trop tôt, il leva son bouclier et dévia le projectile. La charienne se préparait à un nouveau lancer quand les hommes de Galad lui fondirent dessus. Sous leur coup, elle ne fut pas longue à mourir. La tête inclinée en arrière, Galad reprit son souffle. À l'endroit de l'impact avec la pierre, son bras lui faisait sacrément mal. Près de lui, ses hommes finissaient de tailler en pièces la charienne. Il n'aurait pas eu besoin de s'acharner autant, mais certains fils avaient d'étranges idées sur l'étendue des pouvoirs des Aes Sedai. Par exemple, il avait vu Laird couper la tête d'une aïade, afin de l'enterrer loin de son corps. Si on ne faisait pas ça, selon lui, ces créatures revenaient à la vie dès la prochaine nuit de pleine lune. Alors que les gars débitaient les deux autres cadavres, Golver approcha de Galad et lui tendit une main pour l'aider à se relever.
« Que la lumière me brûle, seigneur général !» dit-il avec un grand sourire. « Si ce n'est pas le meilleur boulot que nous ayons jamais fait, je me demande ce que ça peut être. »
Galad se releva.
« Fils Golver, c'est ce qui doit être fait, rien de plus. Eh bien dans ce cas, je regrette que ça ne doive pas être fait plus souvent. C'est ça que les fils guettaient depuis des siècles, et tu es le premier à répondre à leurs attentes. Puisse la lumière briller sur toi, Galad d'Amodred. Puisse-t-elle surtout briller sur une journée où les hommes ne devront plus s'entretuer. Il n'est pas convenable de célébrer la mort.
Bien sûr, seigneur général,
fit Golver, sans cesser de sourire. Galad balaya du regard le versant oriental jonché de cadavres. Si la lumière le voulait bien, Coton trouverait un sens à cette boucherie. Galad, lui, ne lui envoyait aucun.
« Seigneur général !»
lança une voix vibrante de peur. Galad se retourna et brandit son épée. C'était Alanra, un de ses éclaireurs.
« Que se passe-t-il, fils Alanra ?»
L'homme était à bout de souffle. Pour cette opération, on n'utilisait pas de chevaux. Sur une telle pente, ceux-ci auraient eu du mal, et les éclaireurs les auraient rendus fous. Dans ces circonstances, mieux valait se fier à ses jambes.
« Il faut que tu vois ça, Seigneur !»
dit l'éclaireur.
« C'est ton frère !»«
Gawain ?»
C'était impossible. Non, pas tant que ça. Il devait être avec Egwen, au cœur de l'attaque. Galad suivit Alanra et ses compagnons lui emboîtèrent le pas. Le visage grisâtre, Gawain gisait dans une dépression entre deux rochers. À côté, un cheval, un flanc rouge de sang, mais pas le sien, essayait de brouter. Galad s'agenouilla près du cadavre de son frère. Gawain n'était pas mort paisiblement, ça se voyait. Mais qu'était-il advenu d'Egwen ?
« Repose en paix, prince de l'épée, »
souffla Galad, une main posée sur la dépouille.
« Puisse la lumière, Galad, »
murmura le mort en ouvrant les yeux.
« Gawain !»
s'étrangla le seigneur général des Fils de la Lumière, sonné. Salement blessé au ventre, Gawain portait d'étranges bagues, et il était littéralement couvert de sang. Comment pouvait-il avoir survécu ?
« Le lien du champion, » comprit Galad.
« Nous allons te conduire auprès du Aes Sedai. »
Galad se pencha et souleva son frère dans ses bras.
« Galad, j'ai échoué, »
fit Gawain, ses yeux fixant le ciel sans le voir.
« Non, tu t'en es bien tiré. »«
Faux, j'ai échoué. J'aurais dû rester avec elle. Et j'ai tué Amar, le savais-tu ? Je l'ai tué, oui. J'aurais dû choisir un camp. »
Son frère dans les bras, Galad dévala la pente pour rejoindre les Aes Sedai. Afin d'éviter les éclairs, il zigzaga et retarda ainsi de quelques instants le moment où la terre se souleva devant lui, en voyant ses fils voler dans les airs. Projeté au sol, Galad lâcha Gawain et resta un moment étendu près de lui. Le prince de l'épée tremblait, le regard vitreux. Galad essaya de le soulever de nouveau, mais le moribond lui prit le bras et chercha son regard.
« Je l'aimais, Galad. « Dis-le-lui !»«
Si vous êtes lié, elle le sait. »«
Ma mort la fera souffrir, et tout ça pour rien. Je n'ai pas pu le tuer. »«
Qui ça ?»«
Des Mandred. J'ai essayé, mais je n'étais pas assez bon. C'est l'histoire de ma vie. »
Galad eut le sentiment d'être dans un endroit glacial. Des hommes, il en avait vu mourir, et des amis, plus souvent qu'à son tour. Mais là, c'était plus déchirant. Par la lumière, oui, ça lui brisait le cœur. Parce que son frère, il l'avait toujours aimé. Et Gawain, au contraire d'Elaine, lui rendait l'appareil.
Je vais te conduire en sécurité, Gawain,
dit Galad, surpris de sentir des larmes perler à ses yeux. Il releva son frère.
Je ne peux pas rester en ce monde sans avoir un frère. Galad, ça ne t'arrivera pas. Tu en as un autre, que tu ne connais pas. Un fils de Tigraine, quand elle était dans le désert des Aiel. Né d'une promise sur les pentes du pic du dragon.
Lumière.
Ne le déteste pas, Galad. Moi, je le haïssais. Mais j'ai cessé. Oui, j'ai cessé.
Les yeux de Gawain se voilèrent. Galad chercha son pouls, puis il se redressa et resta assis près du cadavre. Du bandage improvisé par Gawain, le sang continuait à sourdre, imbibant le sol desséché. Golver approcha de son chef. Le visage noirci et les vêtements fumants, Alanra s'accrochait à son bras.
« Conduis les blessés en sécurité, Golver !»
dit Galad en se levant. Du bout des doigts, il s'assura de la présence du médaillon autour de son cou.
« Rassemble les hommes et partez d'ici. Et toi, Seigneur ?» « Je vais faire ce qui doit être fait, »
souffla Galad, le cœur et l'âme glacés.
« Apporter la lumière aux ténèbres et rendre la justice au sein des rejetés. »
L'étincelle de vie de Gawain venait d'être soufflée. Egwen s'immobilisa sur le versant du plateau. En une fraction de seconde, quelque chose se détacha de son esprit, comme si une lame l'avait amputé de ce qui était Gawain, ne laissant à sa place que du vide. Elle tomba à genoux et cria. Non, non, ce n'était pas possible. Elle sentait Gawain, pas très loin devant elle.
Pour lui, elle avait bravé la mort. Elle pourrait... Non, il n'y avait plus rien à faire. En hurlant à la mort, Egwene s'unit à la source et s'emplit de tout le pouvoir qu'elle était en mesure de contenir. Puis elle propulsa cette muraille d'énergie sur les chariens qui grouillaient autour d'elle. Au début, ils tenaient le plateau, et les Aes Sedai gravissaient le versant. Mais l'affaire avait tourné à la folie, plus personne ne sachant vraiment ce qui se passait. Le Saangreal devora au point, et Egwene redoubla de violence. Ces chiens, elle allait les détruire, les éradiquer. Lumière, c'était si douloureux.
« Mère !»
cria Sylviana en la prenant par le bras.
« Tu ne te contrôles plus, mère! Tu vas finir par nous tuer toutes! Par pitié !»
Egwene essaya de respirer plus régulièrement. Non loin de là, des capes blanches, soutenant des blessés, descendaient vers l'arrière.
« Si près du but !»
Lumière, Gawain n'était plus de ce monde.
« Mère !»
dit Sylviana. Egwene l'entendit très vaguement. Portant une main à son visage, elle constata qu'il était noyé de larmes. Avant, elle s'était vantée de pouvoir continuer à combattre malgré le deuil. Comme elle avait été naïve. Accablée, elle laissa s'éteindre en elle le feu du Saïdar. Ensuite, la vie sembla s'écouler hors de son corps. Alors qu'elle titubait, des mains la soutinrent, puis lui firent traverser un portail, l'arrachant du champ de bataille. Tam tira sa dernière flèche pour sauver un fils de la lumière. Lui, volant au secours d'un de ses types, il n'aurait jamais cru ça possible, et pourtant... La flèche dans un œil, le Trolloc à museau de loup tituba. Mais il refusa de s'écrouler, jusqu'à ce que le fils se soit relevé et l'ait frappé au genou avec son épée. Perché sur le chemin de ronde de la palissade, les hommes de Tam décochaient volée sur volée, pour endiguer la progression des Trollocs qui avaient traversé la rivière. Ils étaient moins nombreux qu'avant, mais ça faisait quand même une sacrée horde. Jusque-là, la bataille s'était bien déroulée. Les forces combinées de Tam s'étaient déployées le long de la rivière, du côté du Chiennard. En aval, la Légion du Dragon, des arbalétriers et des cavaliers lourds, contenaient les Trollocs qui arrivaient de là. En amont, la même chose se produisait, des archers, des fantassins et des cavaliers tenant en respect les Trollocs. Mais les livraisons de flèches étaient faites rares. Du coup, Tam avait dû ramener ses hommes derrière la palissade, où ils seraient relativement en sécurité. Tam jeta un coup d'œil sur sa droite. Abel agitait son arc, car lui aussi était à court de projectiles. Partout, y compris sur la fortification, tous les hommes l'imitaient. Plus de flèches.
« Nous n'en recevrons plus !» dit Abel. « Le gars a dit que c'était la dernière fournée !»
Avec des membres de la garde du loup, les capes blanches se battaient bien. Mais tous ces braves seraient bientôt contraints de se replier. Pour l'instant, ils luttaient sur trois côtés. Mais une nouvelle horde de Trollocs venait de débouler. Assez puissante pour les balayer. L'étendard du Géaldan flottait très près des ruines. Cette position, Arganda la tenait avec Nourel et les survivants des gardes ailés. Lors d'une autre bataille, Tam aurait ordonné à ses gars d'économiser leurs flèches, afin de soutenir un éventuel repli. Mais aujourd'hui, il n'y avait nulle part où aller. Donc, l'ordre de tirer était justifié. Prenant leur temps entre deux volées, les gars de Deux-Rivières avaient dû abattre des milliers de Trollocs. Mais que devenait un archer sans son arme?
Eh bien, il reste un gars de chez nous. Très peu désireux de perdre cette bataille.
On descend de la palissade!
Cria Tam.
Et on se met en formation avec les armes au poing! Pour l'instant, laissez vos arcs en place! Nous reviendrons les chercher quand il y aura des flèches à distribuer!
Il n'y en aurait jamais. Cela dit, les gars de Deux-Rivières seraient plus heureux s'ils croyaient pouvoir récupérer leurs arcs. Comme Tam le leur avait enseigné, ils se mirent en formation. Armés de lances, de haches, d'épées et même de faux, ils se servaient de tout ce qui leur tombait sous la main. En matière de protection, certains brandissaient un bouclier, et d'autres se débrouillaient pour faire sang. Hélas, personne n'avait de pique. Après les malheurs de l'infanterie lourde, on n'avait plus vu une seule de ces armes.
« Formation serrée et en pointe !»
ordonna Tam.
« On va foncer sur les Trollocs qui encerclent les capes blanches !»
C'était la meilleure chose à faire. En tout cas, Tam n'en avait pas trouvé d'autre. Foncer sur les Trollocs qui prenaient les fils à revers, les disperser et libérer les hommes de Galad d'Amodred. Même s'ils ne comprenaient sûrement rien aux subtilités tactiques, tous les archers acquiescèrent gravement. Qu'importait leur culture martiale?
L'essentiel était qu'ils se mettent en formation et restent disciplinés. Quand ils se lancèrent à la course, Tam se souvint d'une autre bataille. De la neige lui cinglant le visage, tandis qu'il luttait contre des bourrasques incroyables. En un sens, tout ça avait commencé sur un champ de bataille, et ce serait sur un autre que ça finirait. Tam se plaça à la pointe de la première formation, et ordonna à Dewan, un gars de promenade de Deven qui s'était engagé dans l'armée d'Andorre, de se placer en tête de la seconde. Sans laisser à ses hommes assez de temps pour réfléchir à ce qui allait suivre, une façon de se préserver aussi lui-même, Tam lança brusquement l'assaut. Quand ils furent très près des trollocs armés d'épées, de haches et de longues lances, Tam chercha la flamme et le vide au plus profond de son esprit. Son anxiété disparut, et toutes ses émotions avec. Très calme, il dégaina l'épée que Rand lui avait offerte, avec des dragons peints sur le fourreau. Une des plus belles armes qu'il ait jamais vues. Sur le métal, de minuscules irrégularités militaient pour une origine très ancienne. En d'autres termes, une arme bien trop superbe pour lui. Mais cette impression, il l'avait eue avec toutes les lames de sa vie.
« N'oubliez pas ! Tenez la formation !»
cria le père de Rand à ses hommes.
« On ne doit pas s'éparpiller ! Si un soldat tombe, un autre prend sa place, et un troisième tire le blessé au centre de la configuration en fer de lance !»
Les gars de Deux-Rivières acquiescèrent. Puis ils fondirent sur le dos des monstres qui avaient acculé les capes blanches à la rivière. Bien entendu, les monstres se retournèrent pour faire face à la menace. Fortuna congédia du geste la Sojin, qui tentait de remplacer sa tenue naguère régalienne. Les bras brûlés, tout le corps empestant la fumée, l'impératrice n'accepterait pas qu'une Damane la guérisse. Cette nouvelle technique était à ses yeux très utile. Parmi son peuple, cette idée faisait d'ailleurs son chemin. Mais elle n'était pas sûre que l'occupante du trône de cristal doive s'y soumettre. De plus, ses blessures n'avaient rien de fatal. Les gardes de la mort agenouillés devant Fortuna devraient être punis. C'était la deuxième fois qu'il laissait un tueur l'approcher. Même si elle ne les blâmait pas, dans les circonstances présentes, les priver d'un châtiment serait attentatoire à leur honneur. Alors, que ça lui serre le cœur ou non, elle devait se résigner à sévir. Elle donna l'ordre en personne. Normalement, Seloussia aurait dû s'en charger, mais elle était partie se faire soigner. En outre, Karédé méritait l'honneur d'entendre sa sentence de mort de la bouche même de l'impératrice.
« Tu iras affronter directement les Marat Daman de l'ennemi !»
ordonna-t-elle à Karédé.
« Et avec toi, tu prendras tous les hommes qui étaient de service aujourd'hui. Battez-vous vaillamment et exterminez ces femmes !»
Fortuna vit que Karédé se détendait. Alors qu'il se serait transpercé le cœur avec son épée s'il avait eu le choix, cette décision lui laissait le loisir de servir encore l'Empire et sa dirigeante. Une grande chance. Fortuna se détourna de l'homme qui avait veillé sur elle pendant son enfance et sut dépasser ce qu'on attendait de lui. Tout ça pour elle. Pour l'injustice qu'elle était obligée de commettre, Fortuna trouverait plus tard son propre châtiment. En attendant, elle accordait à Karédé autant d'honneur que possible. L'impératrice se tourna vers la femme qui s'obstinait à se faire appeler Mine, malgré l'honneur qu'elle lui avait accordé en lui donnant un nouveau nom.
« Darbinda !»
Dans l'ancienne langue, ça voulait dire « la fille aux images ».«
Darbinda, tu m'as sauvé la vie, et peut-être aussi celle du prince des corbeaux. Je te nomme membre du sang, ma voyante mort. Que ton nom soit honoré par les générations à venir. »
Darbinda croisa les bras. Comme elle ressemblait à Knotai. D'une humilité têtue, ces gens étaient mouillés. Non, en réalité, ils étaient fiers de leur piteux héritage. Surprenant ça. Assis sur une souche, non loin de là, Knotai écoutait des rapports et distribuait des ordres. Les Aes Sedai qui tentaient de gravir le versant occidental du plateau couraient au désastre. Knotai croisa le regard de sa femme et hocha une fois la tête. S'il y avait eu un espion dans le premier cercle du pouvoir, et Fortuna aurait été surprise qu'il n'y en ait pas, l'heure de l'induire en erreur avait sonné. Tous les survivants de l'attaque étaient présents, sur l'insistance de l'impératrice qui prétendait vouloir récompenser ceux qui l'avaient bien servi et punir les autres. Gardes, nobles ou serviteurs, tout le monde put l'entendre quand elle parla.
« Knotai !»
dit-elle.
« Nous devons maintenant évoquer ce que je dois faire de toi. Les gardes de la mort devaient veiller sur moi, mais toi, tu étais responsable de la sécurité de ce camp. Si tu pensais que le poste de commandement était dangereux, pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt ?
Insinuerais-tu que c'est ma faute ?
Demanda Knotai en se levant. D'un geste, il fit taire l'éclaireur qui lui débitait son rapport.
« Je t'ai confié le commandement, non ? Donc, tu es responsable de tout, au bout du compte. »
Le général Galgan plissa le front. Lui, il ne voyait pas les choses ainsi. Mais d'autres braquaient sur Knotai un regard accusateur. De nobles sycophantes, toujours prêts à blâmer un homme parce qu'il n'était pas né dans l'Empire. Fortuna trouva impressionnant que Knotai ait si vite rallié Galgan à sa cause. Ou le général essayait-il de tromper son monde ? Et si c'était lui, l'espion ? Il avait pu manipuler Surot, ou, plus simplement, avoir mission de la remplacer si elle échouait.
« Je n'assumerai pas la responsabilité de cette affaire, Tuon, » dit Knotai. « C'est toi qui as insisté pour être dans le camp, et pas ailleurs, en sécurité. »«
Peut-être aurais-je dû rester loin de toi, en effet. Cette bataille est un désastre. À chaque seconde, tu perds du terrain. En plus, tu plaisantes sans cesse, refusant de suivre le protocole établi. Je doute que cette approche soit adaptée à la hauteur de ta position. »
Knotai éclata de rire. Un vrai rire, bien tonitruant. Pour ça, il était très bon. Fortuna aurait juré qu'elle était la seule à voir les deux colonnes de fumée qui s'élevaient très exactement derrière lui, montant du plateau. Un augure très adapté à Knotai. Plus gros était le pari, plus importante serait la récompense. Ou le prix à payer.
« Je suis fatigué de tout ça !»
dit Knotai, une main levée.
« Tes fichues règles, Sean Chanyen et toi, vous me traînez sans cesse dans les pattes !»«
Dans ce cas, moi aussi j'en ai assez de toi. L'Empire n'aurait pas dû participer à cette bataille. Au contraire !» Nous devrions être en train de préparer la défense des pays conquis au sud-ouest. Je ne te laisserai pas gaspiller la vie de mes soldats.
Va-t'en dans ce cas. Qu'est-ce que ça peut me faire ?
Fortuna se détourna de son mari.
Venez,
dit-elle aux autres Seanchaniens,
et rassemblez nos damans. À part les gardes de la mort condamnés, nous allons tous voyager jusqu'à notre camp, près du fleuve Erinin. Puis nous partirons pour Eboudar. La véritable ultime bataille, nous la livrerons là-bas, quand les idiots du champ de Merilor auront affaibli pour nous l'engeance du démon.
Tout le monde suivit Tuon. La mise en scène était-elle convaincante ? L'espion avait vu l'impératrice condamner à mort des hommes qu'elle aimait. La suite lui ferait-elle penser qu'elle était bien trop impulsive ? Et assez bouffie d'elle-même pour retirer ses troupes à son mari ? Eh bien, c'était tout à fait plausible. En un sens, elle aurait voulu faire ce qu'elle disait, à savoir se battre dans le sud. Pour agir ainsi, bien entendu, il fallait ignorer le ciel noir, les tremblements de terre et le combat du dragon réincarné. Des augures que Fortuna ne pouvait pas négliger. L'espion ne le savait pas, car il ignorait tout d'elle. Donc, il verrait une jeune femme assez stupide pour vouloir se battre seule. Du moins, on pouvait l'espérer. Le ténébreux venait de générer une virtualité autour de Rand. Ce combat qui les opposait, une lutte pour ce qui pouvait être, constituait un élément essentiel de l'ultime bataille. Rand le savait, et il ne pouvait pas tisser l'avenir, car il n'était ni la roue du temps, ni rien de semblable. Malgré tout ce qui lui était arrivé, il restait un homme, simplement. Mais en lui, il portait tous les espoirs de l'humanité. Une espèce qui avait un destin et des choix à faire pour son avenir. Et qui déciderait de la voie qu'elle prendrait ? Eh bien, cette bataille, à savoir le duel de volonté entre le dragon réincarné et le ténébreux. Parce que ce qui pouvait être était susceptible de devenir ce qui serait. Baisser les bras maintenant reviendrait à laisser les ténèbres choisir l'avenir.
« Regarde !»
dit le ténébreux, alors que les lignes lumineuses s'entrelaçaient, rendent pénétrant dans un autre monde.
un monde qui n'existait pas encore, mais qui risquait d'advenir. Le front plissé, Rand leva les yeux vers le ciel. Dans cette virtualité, il n'était pas rouge, et le décor ne semblait pas en ruine. Apparemment, il se trouvait à Kemlin, mais il y avait des différences. Au milieu des passants et des attelages, des chariots à vapeur sillonnaient les rues. Depuis la colline centrale où il se tenait, Rand vit que la cité s'était étendue au-delà du nouveau mur d'enceinte. En plissant les yeux, il distingua même l'endroit où Talmanès avait fait percer dans la muraille un trou toujours pas réparé. Au contraire, la ville s'était développée à partir de là. Dehors, des bâtiments couvraient ce qui était naguère des champs. Rand se demanda à quel jeu jouait le ténébreux. Perplexe, il descendit la rue. À coup sûr, cette cité normale, voire prospère, ne pouvait pas faire partie de ses plans pour le monde. En très bon état physique, leurs vêtements coquets, les gens ne ressemblaient pas à des opprimés. Aucun rapport avec la désolation et la perversité des autres virtualités que le ténébreux lui avait montrées. Intrigué, il approcha d'un étal où une femme vendait des fruits. Mince et souriante, la marchande désigna ses produits.
« Bienvenue, mon bon sire. Je me nomme Renel, et mon commerce est la seconde maison de tous ceux qui aiment les fruits venus du monde entier. Aujourd'hui, j'ai des pêches de Théar. »«
Des pêches ?»
s'écria Rand. Tout le monde savait que c'était du poison.
« Pas d'inquiétude, mon bon sire. On a retiré la toxine. Ces pêches sont aussi saines que je suis honnête. »
Renel sourit et mordit dans un des fruits pour prouver ses dires. Juste à cet instant, une main avide jaillit de sous l'étal. Elle appartenait à un gamin des rues que Rand n'avait pas remarqué jusque-là. Le petit garçon vola un fruit rouge que le dragon ne parvint pas à identifier, puis il détala. Si maigre qu'on pouvait lui compter les côtes, il courait sur des jambes tellement fines qu'il n'aurait pas dû pouvoir tenir dessus. Sans cesser de sourire, Renel saisit une courte tige munie d'un crochet où elle glissa son doigt. Quand elle appuya, il y eut une détonation. Foudroyé, le gamin mourut dans un geyser de sang. Quand il se fut écroulé, les passants firent un grand détour pour l'éviter, à l'exception d'un type bardé de garde du corps qui se pencha pour ramasser le fruit. Après avoir essuyé le sang, il y mordit à pleines dents, puis continua son chemin. Quelques secondes plus tard, un chariot à vapeur passa sur le cadavre, le réduisant en bouillie. Sonné, Rand regarda Renel, qui reposa son arme avec un sourire.
« Quel genre de fruit cherches-tu, mon bon sire ?»«
Tu viens de tuer un enfant !»
Renel parut déconcerté.
« Exact, oui. Il t'appartenait, mon bon sire ?»«
Non, mais... »
Par la lumière, cette marchande n'éprouvait pas une once de culpabilité. Regardant autour de lui, Rand vit que tout le monde se fichait de cet incident.
« Mon bon sire, »
dit Renel,
« j'ai l'impression de te connaître. Tu es joliment habillé, même si c'est un peu démodé. À quelle faction appartiens-tu ?»«
Faction ?»
répéta Rand.
« Et où sont tes gardes du corps ? Un homme aussi riche que toi en possède, bien entendu. »
Rand croisa le regard de Renel et s'écarta alors qu'elle reprenait son arme. Prudent, il courut se réfugier au coin d'un bâtiment. La lueur dans les yeux de la marchande, pas la moindre humanité, aucune compassion. Elle aurait pu le tuer sans même y penser, il le sentait. Des passants s'intéressèrent à Rand, se flanquant des coups de coude tandis qu'il les dépassait. L'un d'eux l'interpella.
« Ta faction !»
beugla-t-il. D'autres citadins prirent Rand en chasse. Après avoir négocié un nouveau coin de rue, le jeune homme s'interrogea. Devait-il utiliser le pouvoir de l'unique, sans savoir ce qui se passait dans ce monde ? Comme précédemment, il avait du mal à se distancier de ce qu'il voyait. Ce n'était pas totalement vrai, il en avait conscience, mais il gardait quand même l'impression d'appartenir à cet univers. Renonçant au pouvoir, il se fia à ses jambes et se mit à courir. Bien qu'il ne connût pas vraiment Kemlin, il se souvenait de ce quartier. S'il arrivait au bout de cette rue et tournait, oui, voilà, il y était. Devant lui, il aperçut l'enseigne d'un établissement familier. Un homme agenouillé devant une femme aux cheveux blonds tirant sur le roux. La bénédiction de la reine. Quand Rand atteignit la porte, les gens qui le poursuivaient s'arrêtèrent net. Passant devant un colosse à l'air pas commode, il s'étonna de ne pas le connaître. Un nouveau videur ? Basselgil était-il toujours propriétaire de l'auberge, ou avait-elle changé de main ? Le cœur battant la chamade, Rand déboula dans la grande salle commune. Les clients assis devant une chope de bière le regardèrent, mais il s'en moqua. Coup de chance, Basselgil en personne se tenait derrière le comptoir,
essuyant une tasse avec son chiffon.
« Maître Gill !»
s'exclama Rand. L'aubergiste costaud tourna la tête, l'air soupçonneux.
« Je te connais ?»
demanda-t-il, en étudiant Rand de la tête aux pieds.
« Seigneur ?»«
C'est moi, Rand !»
Gill inclina la tête, puis il sourit.
« Ah oui, je t'avais oublié, mon gars. Ton ami n'est pas avec toi. Tu sais, celui avec le regard sinistre. »
Donc, ici, les gens ne savaient pas que Rand était le dragon réincarné. Que leur avait donc fait le ténébreux ?«
Maître Gill, il faut que je vous parle !»
fit Rand, en se dirigeant vers une des salles à manger privées.
« Que t'arrive-t-il, fiston ?»
demanda Gill en lui emboîtant le pas.
« Tu as des ennuis ? Encore ?»
Dès qu'ils furent entrés, Rand ferma la porte derrière eux.
« Dans quel âge sommes-nous ? » ?»«
Le quatrième, bien entendu. »
« Donc l'ultime bataille a eu lieu ?»«
Oui, et nous avons gagné. »
Gill étudia Rand, les sourcils froncés.
« Tu te sens bien, mon gars ? Comment peux-tu ignorer que... »
« Ces dernières années, je les ai passées dans les bois. J'avais peur des événements en cours. »
« Oui, je comprends. Donc, tu ne sais pas ce que sont les factions ?»«
Absolument pas. »
« Mon gars, tu es dans une sacrée mouise. Attends, je vais te chercher un insigne de faction. » Il faut que tu en aies un le plus vite possible. »
Gill ouvrit la porte et sortit en trombe. Rand croisa les bras. Non sans déplaisir, il s'aperçut qu'une sorte de néant se tapissait dans les profondeurs de la cheminée.
« Que leur as-tu fait ? »
demanda-t-il à cette obscurité.
« Je leur ai laissé croire qu'ils avaient gagné. »
« Pourquoi ? »
« Beaucoup de mes partisans n'adhère pas à la tyrannie. »
Quel rapport avec la...
Rand se tut, car Gill déboula dans la salle. Il ne revenait pas avec un insigne, quoi que ça puisse être, mais avec trois colosses au cou de taureau, et il leur désigna le jeune homme.
Gill,
souffla Rand en reculant. Il se connecta à la source.
Que faites-vous?
Eh bien, j'imagine que ta veste se vendra à un bon prix.
Dit l'aubergiste, très détendu.
Vous allez me détrousser?
Bien sûr que oui. Pourquoi m'en priverais-je?
Les malabars avancèrent, chacun brandissant un gourdin.
Pourquoi? Parce que c'est contraire à la loi.
Des lois contre le vol? Pourquoi faire? Quel genre de dingue es-tu pour penser des choses pareilles? Si un homme ne peut pas protéger ses biens, pourquoi les détiendrait-il? Et s'il est incapable de défendre sa peau, « à quoi lui sert-elle donc ?»
Gill fit signe aux trois types de charger. Aussitôt, Rand les neutralisa avec des flux d'air.
« Vous contrôlez leur esprit, pas vrai ? »
demanda-t-il. Face au pouvoir de l'unique, Gill voulut s'enfuir, mais Rand le saucissonna comme ses trois sbires.
« Des gens qui se pensent opprimés se révoltent un jour ou l'autre. » Je les priverai de toute volonté de résister et de la capacité de percevoir que quelque chose ne va pas.
En conséquence, tu les laisseras sans une once de compassion, c'est ça ?
Demanda Rand, les yeux rivés dans ceux de Gill. L'homme semblait terrifié, certain que Rand allait le tuer. Les trois gorilles crevaient aussi de peur. Sinon, en eux tous, il n'y avait pas une once de compassion.
« La compassion est inutile. »
Rand eut l'impression que le sang se glaçait dans ses veines.
« Ce monde est très différent de celui que tu m'as montré plus tôt. »«
C'était le monde tel que les hommes redoutent qu'il soit. Le destin qu'ils luttent pour éviter, croient-ils. Mais je les ferai vivre dans un univers où n'existe ni le bien ni le mal. Seulement moi. »
« Tes serviteurs le savent ? Ceux que tu nommes les élus ? Ils pensent se battre pour devenir les seigneurs et maîtres d'un monde qu'ils auront créé.
Mais tu leur donneras ça,
le même monde, sans la lumière.
Il n'y aura que moi. »
Pas de lumière, pas d'amour entre les êtres. L'horreur de cet avenir bouleversa Rand. S'il gagnait, ce serait une des possibilités que le ténébreux pourrait choisir. Ça ne signifiait pas qu'il le ferait inévitablement, mais, eh bien, c'était la pire des choses. Plus grave qu'un monde d'esclaves ou entièrement dévasté.
La véritable horreur, c'était ça. La corruption absolue de la vie. Vider les êtres de toute beauté et ne laisser que des coquilles. De belles coquilles, mais des coquilles quand même. Pour conserver ce qui faisait de lui un être humain apte à privilégier le bien, Rand aurait accepté 1000 ans de torture. Tout plutôt que ce désert sans lumière. Fou de rage, il se tourna vers le néant, qui occupait à présent tout un pan de mur et continuait de grandir.
« Shaitan, tu as commis une erreur. Tu voulais me désespérer, briser ma volonté? Eh bien tu n'y arriveras pas, je peux te le jurer. Je n'ai jamais été si combatif. »
Quelque chose grogna dans les entrailles du néant. Rand cria, poussa avec toute la force de sa volonté, et fit éclater le monde du mensonge où les hommes tuaient leurs semblables comme ils écrasaient un insecte. Quand la vision se fut désintégrée, le dragon se retrouva dans le lieu hors du temps où la trame tourbillonnait autour de lui.
« Tu viens de me montrer ton véritable cœur, Shaitan !»
fit Rand en s'emparant des fils lumineux pour les tisser.
« À moi de te faire voir le mien ! Au monde sans lumière auquel tu aspires, il existe un parfait opposé ! Un monde sans ténèbres !»